Bonsoir à tous. L'ambassadeur du Vatican en France perd son immunité diplomatique. Rome vient de la lever, à la surprise des quatre hommes qu'il accuse d'agression sexuelle. Explications et réactions dès le début du journal. Un peu de sérénité dans la famille de Vincent Lambert. Ses parents se résignent à une mort inéluctable. Son neveu est soulagé. Au sommaire également ce soir, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, de plus en plus hors des clivages. Les Nations Unies choquées par le sort des migrants aux États-Unis, l'étape et le maillot jaune pour Julien Alaphilippe sur le Tour de France, première fois depuis 5 ans. Et au téléphone sonne, bonsoir Claire Servagent.
Bonsoir Sébastien Paour. Eh bien, on va parler des territoires zéro chômeur de longue durée. Ils sont 10 ces territoires pour l'instant. Ils ont permis à plus de 800 personnes de retrouver du travail en CDI. On verra pourquoi ça marche et pourquoi 200 autres territoires sont prêts à tenter l'expérience. On en parle au 01 45 24 7000.
A tout à l'heure dans 20 minutes. C'est un signe de plus que la parole se libère dans l'Église catholique et qu'elle est entendue. Le Vatican vient donc de lever l'immunité de son représentant en France, Luigi Ventura. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Il est visé par une enquête à Paris pour agression sexuelle.
4 plaintes au total avec souvent le même mode opératoire en cause. Des attouchements, caresses appuyées sur les fesses de jeunes hommes, parfois lors de cérémonies officielles. Pour Mathieu de la Souchère, le premier à avoir porté plainte, c'était lors de vœux à la mairie de Paris. Il a appris la nouvelle il y a quelques minutes et il n'y croit pas encore.
Pour tout vous dire, pas du tout, parce qu'on m'a tellement répété que c'était impossible que non, je n'y crois pas, mais comme toutes les victimes d'agressions sexuelles, que l'agresseur soit ambassadeur ou non, j'attends que nos droits des victimes soient respectés, qu'on ait une enquête, puis un procès qui soit équitable.
L'ambassadeur ne s'était pas opposé à la procédure. Il avait répondu présent aux convocations pour des confrontations avec les victimes présumées, mais il se savait jusqu'à maintenant protégé par l'immunité diplomatique. Et si Mathieu de la Souchère dit qu'il n'y croit pas, c'est aussi parce qu'il est revenu il y a quelques jours à peine d'un séjour au Vatican et qu'un conseiller du pape lui avait alors fait comprendre qu'il n'avait rien à espérer.
On m'a dit que le combat était parfaitement légitime, qu'il fallait le mener jusqu'au bout, mais que la levée d'immunité n'était de fait pas possible parce que on ne voulait pas créer un précédent. Et je suis arrivé vraiment où j'ai dû systématiquement montrer patte blanche et expliquer que je n'en voulais pas à l'institution, que j'étais très respectueux de l'institution et de ce pontificat, mais que, en revanche, en tant que victime, pour moi et pour les autres, je souhaitais que nous soyons entendus.
Revirement donc du côté du Vatican qui mérite encore éclaircissement. À Paris, la nonciature ne fait aucun commentaire pour le moment.
L'autre affaire qui semble avoir avancé aujourd'hui, merci Julie Pietri, c'est le cas Vincent Lambert. Cet homme en état végétatif depuis 10 ans et dont les traitements sont donc arrêtés depuis la semaine dernière. Sa famille va-t-elle l'accompagner sereinement vers la mort après des années à se déchirer? Il semble bien à la lecture de la lettre de ses parents. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Viviane et Pierre Lambert disent qu'ils se résignent à la mort inéluctable de leur fils.
Cette fois, c'est terminé. Voilà comment débute cette lettre. Nous ne pouvons que nous résigner dans la douleur, l'incompréhension et l'espérance. Ils ajoutent que ces derniers jours, les avocats ont multiplié les recours et mené d'ultimes actions devant l'ONU, mais en vain. C'est donc parce qu'il n'y a effectivement plus aucun moyen juridique de stopper le processus engagé que les parents abandonnent ce combat devant les tribunaux. Combat mené sans relâche depuis 6 ans, date de la première tentative d'arrêt des traitements. Viviane Lambert, qui disait encore il y a quelques jours qu'il s'agissait d'une euthanasie déguisée, a donc décidé, sans doute aussi parce que le chemin de son fils vers la mort est maintenant inéluctable, de se montrer dans une situation d'apaisement, de ne pas rajouter de la colère ou du ressentiment dans cette période aussi proche du deuil.
Alors, les parents sont venus voir Vincent Lambert au CHU de Reims ce midi, mais ils n'ont pas pris la parole devant micros et caméras, tout comme son épouse Rachel, qui y était elle ce matin. Mais son neveu, qui s'opposait jusqu'ici aux parents, a répondu aux questions des journalistes à sa sortie de l'hôpital, notamment à celle de Sylvie Bassal de France Bleu Champagne. Il est évidemment soulagé par la lettre rendue publique ce matin.
C'est plutôt un soulagement. Et à partir du moment où on sait que le processus est irréversible, le mieux c'est que ça aille le plus vite possible. Parce que dire que le processus est irréversible, c'est finalement la même chose qu'annoncer que le patient est mort. Mais sauf qu'il y a une latence encore où son corps va continuer de dépérir lentement, va souffrir. J'ai eu des échos tout à l'heure qui sont pas très bons sur les images que ça renvoie. Enfin, sans rentrer dans les détails, il suffoque, il est tout blanc. On a beau se dire qu'il souffre pas, c'est vrai que c'est toujours problématique de voir un corps qui est en souffrance, qui dépérit petit à petit, qui devient de plus en plus maigre, parce que vous avez le temps de perdre du poids quand même sur une semaine, deux semaines. C'est quand même une bonne chose que ce soit irréversible et que ça se termine enfin.
Le décès de Vincent Lambert est donc désormais médicalement inéluctable. Je me retourne vers vous, Daniel Messager. Que va-t-il se passer maintenant?
Eh bien, au bout de presque une semaine maintenant d'arrêt des traitements, c'est-à-dire de l'alimentation et surtout de l'hydratation, les effets sur l'organisme sont irrémédiables. L'arrêt du fonctionnement des reins va entraîner des conséquences en chaîne sur les autres organes. La mort s'en suivra, non pas à cause de la sédation qui n'accélère pas le décès, mais qui permet d'éviter toute situation d'inconfort. Cette sédation doit être mise en place dans ces situation d'obstination déraisonnable. C'est ce que dit la loi sur la fin de vie de 2016. Les soins, eux, sont poursuivis, bien sûr, en particulier les soins de bouche. Alors, de cet accompagnement à la mort, certains médecins disent aussi parfois qu'il s'agit d'un devoir de réparation de la part d'une médecine qui, souvent, a trop réanimé.
Merci, Daniel Messager. Les parents de Vincent Lambert ont déposé plainte vendredi dernier contre le docteur Sanchez, qui supervise l'arrêt des traitements à l'hôpital de Reims. Plainte pour homicide volontaire. Et le docteur Sanchez a été entendu ce week-end par la police judiciaire en audition libre.
Jean-Michel Blanquer, hué cet après-midi en Gironde.
Le ministre de l'Éducation aurait dû rester discret en ces temps de réformes contestées et de bacs perturbés. Il a été accueilli par des Blanquer d'émission tout à l'heure dans la banlieue de Bordeaux, parce que les oraux de rattrapage qui ont commencé ce matin et jusqu'à mercredi ont lieu dans une certaine confusion à cause des copies, vous le savez, rendues en retard par les professeurs qui contestent la réforme du lycée. Quelques centaines de copies encore retenues ce soir d'après le ministère et qui seront considérées comme perdues si elles ne sont pas rendues avant la fin de la journée. Mais la polémique n'est pas terminée, notamment sur la rupture d'égalité entre candidats que dénoncent certains face à la solution choisie par le ministre la semaine dernière, que vous avez constaté dans un lycée parisien, Alexis Morel.
Au lycée Camille C, dans le 15e arrondissement de Paris, toutes les copies manquantes ont été rendues aujourd'hui. Les jurys de la deuxième session avaient donc pour consigne de comparer notes de l'année et notes du bac et de retenir la meilleure des deux pour les candidats concernés. Mais Joséphine et Marc ont claqué la porte. Ces deux enseignants ne veulent pas cautionner, disent-ils, une différence de traitement entre élèves.
53 élèves dans notre jury au total ont eu une meilleure note au contrôle continu qu'à la note d'examen finale et verront donc leur note de contrôle continu rester en place de leur note d'examen. Ce qui ne nous pose pas de problème pour ces élèves-là, mais pour les autres, qui n'ont pas eu droit à la possibilité de voir leur note de contrôle continu gardée en place de la note d'examen.
Je refuse effectivement pour porter la responsabilité d'un jury qui va introduire une perte d'équité entre les élèves. Il faut que tous ces élèves soient traités de manière équitable. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est extrêmement dommage.
Une injustice que ressentent les élèves selon ces deux profs. Certains candidats s'en sont plaints lors des oraux de rattrapage ce matin. Critique balayée ce soir par Jean-Michel Blanquer. Le ministre affirme que personne ne sera lésé et que la solution choisie face à la rétention des notes est juridiquement solide.
Eux aussi passent l'oral demain, les candidats En Marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux et Cédric Villani, ainsi qu'Hugues Granson, entendus par la commission nationale du parti présidentiel avec l'assentiment d'Emmanuel Macron, qui a vu séparément hier et aujourd'hui les deux rivaux à la mairie de Lyon, Gérard Collomb, le maire, et David Kimmelfeld, le président de la métropole. Ils doivent travailler ensemble, leur a dit le chef de l'État. Du côté des écologistes, le rendez-vous était cet après-midi sur le site du projet d'incinérateur d'Ivry-sur-Seine au sud de Paris pour afficher l'unité, même si Yannick Jadot, Maxence Lambrecq fait de plus en plus bande à part.
Pourquoi pas appeler à voter pour des maires divers droite ou sans étiquette? Yannick Jadot pose la question qui fâche. Je préfère, dit-il, un divers droite qui met en place des jardins partagés et des cantines bio qu'un socialiste favorable aux autoroutes urbaines et aux cantines Sodexo. De quoi agacer notamment la sénatrice écolo Esther Benbassa, mais lui assume.
Est-ce qu'elle veut, mais elle rappelle, Madame Bassa, elle rappelle la ligne du parti. Eh bien moi, je suis totalement dans la ligne du parti. Le premier tour, c'est l'écologie. Et au second tour, autour de l'écologie, on verra qui se réunit autour de nous. Mais le pragmatisme et la subsidiarité. 36 000 communes, 36 000 cas.
Le pragmatisme comme priorité, c'est nouveau chez les Verts et ça plaît à Antoine Wächter, comme à Delphine Bateau, qui avec Génération Écologie s'associe à ELV pour les municipales.
Le but, c'est pas de se lancer, si vous voulez, dans des mécanos d'usines à gaz d'organisation politique. C'est de travailler ensemble de façon opérationnelle, concrète, sur le terrain. Et c'est ça qui va nourrir aussi l'élaboration programmatique dans la perspective de 2022.
2022, déjà dans toutes les têtes donc, au pied de cet incinérateur géant. La famille écolo est prête à se ranger derrière Yannick Jadot. et lui va maintenant en discuter avec le mouvement Génération en fin de semaine, puis avec notamment Place Publique et le Parti Animaliste.
Reportage Maxence Lambrecq. L'héritage de Johnny Hallyday n'a pas fini de s'éterniser devant les tribunaux. Les enfants David et Laura ont obtenu gain de cause fin mai. La justice française est bien compétente pour trancher le litige. La veuve du chanteur Laetitia fait appel du jugement. Elle veut que tout cela soit jugé aux États-Unis. Prochain rendez-vous à la cour d'appel de Versailles, ce sera l'an prochain. Compte en commun le gazpacho, les ventilateurs et les glaces. Eh bien, leur vente était en forte hausse fin juin avec la canicule. Plus 533% pour les ventilateurs et les climatiseurs, plus 27% pour les soupes fraîches et jusqu'à 88% d'augmentation pour les glaces dans le département des Vosges.
Il est 19h11 sur France Inter. Sébastien Pamour, on passe à l'actualité à l'étranger avec Paris qui tente toujours de faire baisser la pression en Iran.
Oui, Emmanuel Macron envoie de nouveau son conseiller diplomatique à Téhéran demain et mercredi, alors que l'Agence de l'énergie atomique confirme le pays a bien commencé à enrichir de l'uranium au-delà du maximum autorisé par l'accord de Vienne de 2015. Les migrants sont le symbole de tous les exclus. Les mots du pape ce matin à Saint-Pierre de Rome à l'occasion d'une messe pour les 6 ans de sa visite à Lampedusa. L'île italienne, toujours théâtre d'arrivées plus ou moins faciles, de bateaux humanitaires chargés de réfugiés, sauvés en Méditerranée. Le sort des migrants qui interpelle aussi aux États-Unis. La commissaire aux droits de l'homme de l'ONU se dit choquée par leurs conditions de détention. Cela fait suite, Loïc Loury, aux révélations de la presse ces derniers jours.
Des migrants affamés, effrayés et malades. Voilà comment le New York Times résume le sort des détenus de Clint, un centre de rétention situé à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Le journal en fait un portrait insoutenable, évoquant des enfants toujours en pleurs, entassés dans d'étroites cellules où gale, zona, varicelle se propagent sans difficulté. Il décrit aussi le sort de cette jeune enfant que des gardes font dormir à côté d'eux par crainte qu'elle ne se suicide. Mais le Times n'est pas une voix isolée. Plusieurs démocrates ont pu visiter certains de ces centres. Un rapport de la sécurité intérieure, par ailleurs, admettait récemment la surpopulation dangereuse de ces structures. Il faut dire qu'en mai dernier, près de 150 000 personnes ont été arrêtées et internées. Le Mexique, sous la pression américaine, a toutefois commencé à augmenter les expulsions de migrants venus d'Amérique centrale. Quant à Donald Trump, il parle de canulars et affirme que si les migrants ne sont pas contents de leurs conditions de détention, eh bien ils n'ont qu'à simplement ne pas venir. New York, Loïc Loury, France Inter.
Trump qui vient d'annoncer que certains centres pour migrants serait ouvert aux journalistes. La page Tsipras est tournée en Grèce. Le chef de file des conservateurs de Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, a prêté serment ce matin sur la Bible, comme le veut la tradition dans ce pays où l'Église et l'État ne sont pas séparés. Après la victoire de sa formation aux législatives d'hier, les noms des ministres doivent être connus ce soir. Prise de fonction demain. L'Allemagne perd un de ses producteurs de cinéma les plus importants de l'après-guerre. Ainsi parle la secrétaire d'État à la culture outre-Rhin d'Arthur Bronner, Morière à l'âge de 100 ans, producteur de plus de 300 films, Pascal Thibault, dont beaucoup de grands succès consacrés à la mémoire de la Shoah.
La légende veut qu'il ait financé son tout premier film après la guerre en vendant un manteau de fourrure de sa belle-mère. Arthur Bronner a survécu à l'Holocauste en se réfugiant avec les siens en Union soviétique, mais 49 personnes de sa famille seront exterminées. Pourtant, le jeune homme né à Lodz, en Pologne, choisit Berlin, l'ancienne capitale du Reich nazi, pour se dédier à sa passion, le cinéma. Il crée ses studios CCC dès 1946 et produit durant 7 décennies environ 300 films. Il livre durant les années du miracle économique ouest-allemand les films d'aventure et autres comédies populaires dont les Allemands sont friands pour oublier les années sombres du Troisième Reich. Mais Arthur Bronner, lui, n'a pas oublié. Il sort un film sur l'Holocauste dès 1948 qui fera un flop. Les succès commerciaux lui permettent de financer sur le tard plusieurs films sur la mémoire de l'Holocauste, dont Europa Europa de la polonaise Agnieszka Holland, sur un jeune juif qui se retrouve au cœur de l'élite nazie. 21 films d'Arthur Bronner sont présentés par le mémorial de Yad Vashem en Israël. À un journaliste qui lui demandait s'il avait peur de mourir, Arthur Bronner répondit « Non, il n'y a pas de nazis au paradis ». Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
La mort aussi de Georges Ménage, ancien marin des forces françaises libres. Il avait participé au débarquement en Normandie le 6 juin 1944 à Utah Beach. Georges Ménage avait 97 ans.
Un Français remporte la 3e étape du Tour de France.
Le nom du numéro 1 mondial était le plus cité pour cette étape entre la Belgique et Épernay. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien.
Victoire d'étape et maillot jaune pour Julien Alaphilippe.
Et le nouveau leader au classement général, c'est
Julian Alaphilippe, ému aux larmes quelques minutes après son arrivée. Raymond Poulidor, carrément épaté près de lui, à proximité du podium protocolaire. À 27 ans, le maillot à poids du dernier Tour de France a endossé le premier maillot jaune de sa carrière grâce à une victoire pleine de panache à Épernay. Repoussé à 31 secondes du leader après le contre-la-montre par équipe, le coureur de Montluçon est parti seul sur les pentes de la côte de Mutigny, au milieu des vignes, pour reprendre le dernier attaquant du jour, Tim Wellens, avant de contenir les costauds et finir avec 26 secondes d'avance sur l'Australien Matthews et le Belge Jasper Stuyven.
C'est incroyable, je réalise toujours pas. Le porté, c'est quelque chose, tu t'en souviens à vie. Hein. Je suis content de marquer l'histoire de mon sport grâce à ce maillot jaune. Et maintenant, forcément, je vais me battre pour le garder le plus longtemps possible, même si je sais que ça va être difficile, mais on verra.
Vainqueur d'étape l'an dernier au Grand Bornand et à Bagnères-de-Luchon, Julian Alaphilippe, lauréat de Milan San Remo, de la Flèche Wallonne, d'une étape du Dauphiné, a signé son 11e succès de l'année. Le champagne va couler à flot ce soir du côté de la Deceuninck Quick Step, avec laquelle il a prolongé son contrat. L'euphorie a même gagné toute son équipe ce soir.
Une coupe, vous dites ? Un camion ? C'était très risqué ce qu'il a fait, parce que le planning, c'était probablement faire le sprint ici, parce qu'il a ça dans les jambes aussi. Mais partir comme ça, à 15 km de l'arrivée, c'était incroyable. On a eu peur jusqu'à la fin.
Patrick Lefebvre, manager de l'équipe de Julian Alaphilippe.
Le public attendait cette victoire, Fabrice. Hein.
Un public fervent. Depuis l'année dernière, Julian Alaphilippe est devenu la coqueluche du public tricolore. Thomas, 21 ans, est venu à vélo applaudir le numéro 1 mondial que tout le monde attendait aujourd'hui.
J'étais dans une côte un peu plus loin, à Champillon. Je m'étonnais de ne pas le voir aussi devant. J'ai réussi à revenir jusqu'à l'arrivée. J'ai vu qu'il était en tête, je l'ai entendu. Et ça fait énormément plaisir qu'il gagne en plus ici, chez nous en tout cas. Maillot jaune en plus, ouais, ça fait rêver forcément. En plus du fait qu'il soit bon, il est français, quoi. Donc ça fait plaisir.
Au lendemain du contre-la-montre, Julian Alaphilippe avait vu le maillot jaune s'éloigner. Sa ténacité lui a permis d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Tony Galopin, dernier maillot jaune tricolore avant lui il y a 5 ans, est tout sauf surpris.
C'est impressionnant hein, quand on arrive au pied de cette montée. On a vu la difficulté, la pente qui était très raide. Et être capable de sortir comme ça, lâcher tout le monde, c'est pas le numéro 1 mondial pour rien. C'est vraiment le puncher qui est pas suivable dans des montées comme ça.
Combien de temps va-t-il pouvoir conserver cette première place? Il dispose aujourd'hui de 20 secondes d'avance sur le Belge Wout van Aert, 25 sur Kruijswijk. Il s'agit de deux coéquipiers de l'ancien leader. Demain, c'est sûr, jusqu'à Nancy, au-delà de la planche des belles filles, après-demain, peut-être, c'est une possibilité. Les leaders ne sont qu'à une quarantaine de secondes de Julian Alaphilippe. Bernal, Thomas notamment, 52 secondes pour Thibaut Pinot, 10e de cette étape aujourd'hui. Thibaut Pinot qui sera, Sébastien, à domicile au sommet de la fameuse planche des belles filles. Notez que Romain Bardet est lui un peu plus loin, 51e à 1 minute 44.
Fabrice Rigobert avec Hélène Langlois et toute l'équipe de Radio France sur le Tour. Vous étiez à Épernay, je vous dis à demain à Nancy. Un mot de football, le Paris Saint-Germain n'est pas content de l'absence de sa superstar Neymar à la reprise de l'entraînement aujourd'hui. Le club de la capitale promet de prendre les mesures appropriées qui en découlent. Le tennis à Wimbledon, ça passe en quart sans forcer pour Serena Williams et Rafael Nadal. Pas de miracle en revanche pour la jeune américaine de 15 ans, Cori Gauff, battue par l'ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep. Et côté français, bonsoir Jean-Pierre Bimaud.
Bonsoir Sébastien.
Eh bien côté français, c'est tout simplement terminé.
Oui, les deux derniers tricolores encore en lice en huitième de finale aujourd'hui ont été battus. Il y a quelques instants, c'est le jeune messin Hugo Humbert qui a été défait par le numéro 1 mondial et tenant du titre ici à Wimbledon, Novak Djokovic, mais sans démériter. Hein, il a été battu 6-3, 6-2, 6-3 et il a parfois poussé Novak Djokovic dans certains retranchements. Mais évidemment, le Serbe a fait parler son expérience et sa classe, on peut le dire, pour gagner les points qu'il fallait et pour sortir Hugo Humbert et se retrouver de nouveau en quart de finale. Un autre Français disputait les huitièmes de finale aujourd'hui, c'est Benoît Paire, l'Avignonnais, qui a été battu aussi par l'Espagnol Roberto Bautista Agut en trois manches, 6-3, 7-5 et 6-2. Mais Benoît Paire l'a confié cet après-midi en conférence de presse. Il était gêné par une blessure abdominale depuis plusieurs jours, contractée lors d'un double la semaine dernière ici sur le gazon de Wimbledon. Et donc il n'a pas pu forcément défendre comme il le voulait son bout de gras face à l'Espagnol qu'il avait déjà battu 8 fois sur 8 lors des dernières confrontations. Plus de Français à Wimbledon, mais vous l'avez dit, toujours les cadors avec Djokovic, avec également Nadal et Federer qui est bien parti là face à Berrettini sur le central.
Il mène 1-0 dans la première manche. Merci Jean-Pierre Blimaud en direct de Wimbledon. Le temps.
La météo Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Attention aux orages.
Et oui, sur le sud-ouest, c'est agité ce soir et cette nuit également, avec des orages parfois violents sur les 9 départements en vigilance orange. De la grêle au menu, du vent, de bonnes pluies. Demain matin, toujours des orages parfois forts sur ces régions. Entre le littoral méditerranéen et le sud des Alpes, ce sera moins instable, avec peut-être quelques ondées, voire un coup de tonnerre. Et puis l'après-midi, reprise des orages des Pyrénées vers les Alpes, des averses également. Les côtes du Languedoc jusqu'à la côte d'Azur et la Corse s'en sortiront mieux, avec un risque d'ondées seulement.
Et ailleurs, ce sera plus calme.
Ce sera du soleil, alors on trouvera un petit peu plus de nuages tout de même sur les Hauts-de-France. Température en baisse, 8 à 16 degrés au nord le matin, 15 à 19 au sud, jusqu'à 24 près de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, 21 degrés au Havre, 23 à Cambrai, Toulouse, Biarritz, 25 à Paris et Mulhouse, 29 à La Roche-sur-Yon, à Grenoble, à Nice, 30 à Bordeaux et à Nîmes, et puis 34 du côté d'Ajaccio.
Élodie Calac, Météo France, merci.